Le livre de l'Ecclésiastique dit « Souvenez-vous de vos fins dernières dans toutes vos actions et vous ne pécherez jamais. » Eh bien, notre fin dernière, c'est Dieu. Et c'est pourquoi nous devons très souvent contempler Dieu et ses perfections. Donc c'est le sujet de cette première instruction. C'est notre Seigneur qui nous y invite, puisqu'il dit « La vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé. » Et l'apôtre Saint Jean, dans sa première épître, nous dit de même « Nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Bien, voilà notre espérance. Voir Dieu éternellement. Et pour avoir ce bonheur de voir Dieu, eh bien, il faut chercher à mieux le connaître ici-bas et surtout à l'aimer. Mais pour aimer Dieu ici-bas, il faut le connaître. Parce qu'on aime vraiment que celui que l'on connaît. Et puisque Jésus-Christ est Dieu, à l'occasion, je montrerai comment les perfections divines se trouvent aussi en notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie telle qu'elle est décrite par l'Évangile. C'est très important de contempler Dieu et cela pour l'admirer, pour adorer, pour l'aimer bien sûr, l'obéir, garder confiance aussi et tenir ferme. Saint Paul, en parlant de Moïse, dit « Par la foi, Moïse quitta l'Égypte, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. » Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Donc cette fermeté, à travers les heurts et malheurs du temps, et Moïse avait beaucoup d'épreuves pour conduire le peuple d'Égypte à la terre promise, eh bien, regardant Dieu, il tint ferme. Alors, il faut, nous, de même, faire la même chose. Donc, en regardant Dieu et ses perfections, nous regardons Dieu tel que nous le pouvons le connaître par la seule raison. Bien sûr, nous serons aidés par l'Écriture sainte, mais la lumière de la raison suffit. Pour entrer véritablement dans le mystère de Dieu, dans le sanctuaire de la divinité, c'est la révélation qui est nécessaire, et ce mystère, le sanctuaire de la divinité, c'est la Sainte Trinité, bien sûr, et là, il faut la connaissance surnaturelle de la foi. Donc, dans le premier point, si vous voulez, dans Dieu et ses perfections, cette parole extraordinaire qui est dite par Dieu à Moïse, « Je suis celui, donc vous savez, il s'était passé, Moïse s'était enfui d'Égypte parce qu'on voulait l'arrêter, l'emprisonner. Il s'était enfui d'Égypte, dans le désert. Il s'était uni à une famille qui habitait dans le Sinaï, enfin dans les environs du Sinaï, la famille de Jéthro, dont il gardait les troupeaux. Et il resta donc dans toutes ces régions pendant 40 ans, dans toute cette péninsule désertique du Sinaï. Et un jour qu'il gardait ses troupeaux près du mont Horeb, donc dans la région du Sinaï, il aperçut un buisson d'acacia qui brûlait, donc les flammes d'un éclat extraordinaire, une lumière éblouissante, et cependant le buisson restait intact. Il y avait le bruit de crépitement, la chaleur, les flammes, mais le buisson restait intact. Alors bien sûr, Moïse est un peu étonné, il s'avance pour voir ce que c'est. Et il entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse, ne t'approche pas, enlève la chaussure de tes pieds, car cette terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. » Donc ça se trouve dans l'Exode au chapitre 3. Et là, donc, c'est Dieu, enfin par un ange, c'est Dieu qui lui parle. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se cache le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc vous voyez déjà le respect envers la présence de Dieu. Et Dieu lui confie une mission, donc aller auprès du Pharaon pour délivrer le peuple opprimé. Or Moïse se récuse une première fois, une seconde fois, et il dit, si le peuple me demande quel est le nom de celui qui m'envoie, que dirais-je? Et c'est alors que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Donc la nature de Dieu, c'est d'être, d'exister. Pour nous, pour les créatures, notre nature, c'est d'être ceci ou cela, d'être un caillou, une fleur, un chat, un homme, une femme. Nous disons, je suis ceci avec telle qualité et tel défaut. Mais Dieu ne dit pas ça. Il ne dit pas, je suis ceci ou cela. Il dit, je suis. Je suis simplement. Il n'est pas une chose précise, déterminée. Donc Dieu seul, c'est Dieu seul qui est absolument en plénitude, sans limite. Vous voyez, nous sommes limités à être ceci. Et pas autre chose. Nous sommes limités à ceci ou à cela. Mais Dieu, lui, il est en plénitude, sans limite, sans détermination à ceci ou cela. Il a l'existence, si vous voulez, avec toutes les possibilités et les perfections de l'être. Toutes les possibilités et toutes les perfections se trouvent en lui. Alors, quelle richesse! Il est tout ce qu'il est possible d'être en matière de perfection. Vous voyez, on dit les fleurs sont bonnes, on dit les fruits sont bons, cette personne est bonne. Mais cela veut dire qu'ils ont une certaine bonté. On ne va pas dire de la même manière la fleur est bonne ou cette personne est bonne. On ne dit pas de la même manière, bien sûr. Ils ont une certaine bonté, une bonté reçue, limitée. Mais Dieu est bon, sans limite, et par lui-même. Donc on dira de même, les fleurs sont belles, la lumière est belle, les pierres sont précieuses, sont belles, mais c'est une beauté reçue, limitée. En Dieu, rien de cela. Dieu ne reçoit pas. Il est, il existe sans limite. Comme un océan sans borne et sans rivage, si vous voulez. Il est en plénitude, en infini, toutes les perfections, toutes les possibilités de l'être. C'est pour ça que sa définition, c'est « je suis ». Ça nous est difficile. Donc « je suis celui qui suis », je ne suis pas ceci ou cela, mais « je suis celui qui suis » avec toutes les perfections possibles. Et ne croyez pas que ce soit impossible à notre contemplation. Je me souviens d'une personne, enfin j'ai déjà raconté ça plusieurs fois, d'une personne de 90 ans, une dame de 90 ans, peut-être certaines d'entre vous en ont pu entendre parler, personne de 90 ans qui était tertiaire franciscaine, grabataire, dans une maison de retraite, bon, bien sa tête, tout à fait. Elle avait écrit sur la porte de son armoire deux mots. Dieu, Dieu est. C'était sa contemplation. C'est pas fréquent de trouver ça, je reconnais. Mais c'est pour vous faire comprendre que c'est ce qu'on doit contempler, les perfections de Dieu. Dieu existe, donc on précise encore un petit peu, Dieu existe par lui-même et non pas par un autre. Donc il est indépendant de tout autre. Vous voyez, tous les êtres créés reçoivent de Dieu leur existence, leur nature, leur qualité, leur puissance d'action. Tous les êtres créés existent, mais ils pourraient ne pas exister. Ils pourraient retourner au néant. Eh bien, Dieu seul ne reçoit pas. Il est par lui-même. nous sommes, enfin toutes les êtres créés, sont par un autre, reçoivent d'un autre leur existence, leur nature, leur qualité. Mais Dieu seul est par lui-même, existe par lui-même. Donc c'est le souverain indépendant, si vous voulez. Nous, nous sommes dépendants de multiples manières à l'égard de Dieu, bien sûr, mais à l'égard de tas d'autres choses. Enlever l'eau et puis c'est fini pour nous. Vous prenez ça, puis vous prenez mille autres choses de lesquelles nous dépendons. Ben Dieu, lui, existe par lui-même sans dépendre de quoi que ce soit. Il est absolument et totalement, on dirait aujourd'hui, autosuffisant. Si on peut appeler ça, appliquer ça à Dieu. Et c'est pourquoi notre Seigneur disait à Sainte Catherine de Sienne, je suis celui qui est, et tu es celle qui n'est pas. Parce que tu n'es pas par toi-même, tu es par une, par moi. Tu reçois de moi ton existence, tu n'as pas toujours existé, tu pourrais ne pas exister et retourner au néant. Ce qui a pour conséquence, et c'est très important, c'est que Dieu est le Créateur et le Maître souverain de toutes choses. Lui ne dépend de rien, mais tout dépend de lui pour exister. Prenez le petit brin d'herbe dehors. Eh bien, ce petit brin d'herbe, maintenant, a besoin de l'action toute puissante de Dieu pour exister. Si Dieu cessait de penser et d'aimer ce petit brin d'herbe, ce petit brin d'herbe disparaîtrait. Il faut l'action toute puissante de Dieu pour... Oui, distribuer. Il faut l'action toute puissante de Dieu pour qu'il puisse continuer d'exister. S'il y a de la poussière, mais vous prenez la moindre petite poussière qu'on voit dans le rayon de soleil, et bien cette petite poussière, c'est quelque chose qui existe, et bien elle n'existe que parce que Dieu y pense et la fait exister. Actuellement, quand je parle, tout dépend de Dieu pour exister. Alors, quand on songe au nombre de créatures qui existent sur Terre, avec toute leur variété, leur multitude, alors on commence à avoir une petite idée de l'infinie majesté et de l'infinie grandeur de Dieu, et puis nous, rien à côté. Donc la petite poussière, tout comme l'infini des planètes et des étoiles, ne peut exister que par l'action toute puissante de Dieu, le petit et le grand. Tout est suspendu à l'action divine pour exister et pour agir. Saint Paul parlait, était à Athènes, il parlait aux Grecs sur l'agora, donc la place où on discutait, où se trouvaient tous les philosophes. Alors il parle philosophie, on l'écoute, et quand il commence à parler résurrection, on se moque de lui. Et il leur dit, car c'est en lui, en ce Dieu inconnu, comme il dit un peu plus loin, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. C'est dans les actes des apôtres. C'est en lui, donc en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. L'être, l'existence, la vie de tous les jours, le mouvement, la possibilité d'agir. Tout est suspendu à l'action divine, pour être et pour agir. Je ne peux pas bouger le petit doigt si Dieu ne me donne pas la puissance de le bouger. Dieu m'a donné cette puissance d'action, ce qui fait que je peux le faire. Mais il le faut. Cette dépendance à l'égard de Dieu, j'insiste parce que c'est très important, cette dépendance à l'égard de Dieu n'est pas un fait passé. Le grand horloger de Voltaire, hein, le grand horloger a lancé sa machine, puis après c'est fini, il ne s'en occupe plus. Non, c'est une dépendance actuelle, permanente. Donc, en tout être créé, nous devons voir derrière, si je puis parler ainsi, l'action de Dieu qui le fait exister. Et puis, n'oublions pas que Dieu continue de créer, puisque à la conception d'un enfant, il y a la création de l'âme. À toute conception d'un enfant, il y a la création de l'âme par Dieu. Donc l'action créatrice qui produit de nouveaux êtres continue à travers le monde. N'oublions pas cela non plus. Cette dépendance à l'égard de Dieu s'impose parfois cruellement à ceux qui n'y ont jamais pensé. La maladie mortelle, la souffrance intolérable, la mort nous rappellent que nous ne sommes pas les maîtres de notre existence. Et c'est vraiment pour aujourd'hui la vérité intolérante que les gens ne supportent pas. Et nous ne sommes pas les maîtres. Je tombe malade, je ne peux pas toujours faire ce que je veux pour guérir aussi vite que je le voudrais. Et puis quand la maladie est grave ou que la mort arrive, j'ai pas le choix. Je ne suis pas le maître. C'est Dieu qui est le maître de mon existence. Et c'est pourquoi devant le sida, c'est ce que me disait une dame médecin de Montpellier qui me disait devant le sida, c'est la révolte ou la conversion. Certains acceptent et se convertissent, d'autres se révoltent contre Dieu. C'est l'un ou l'autre. Et comme me disait aussi un vieux prêtre, qui voit, si vous voulez, qui est assez malade, donc il voit un peu ses membres, tout qui s'en va, il ne peut plus rien faire. Alors il dit, c'est en voyant tout qui s'en va que je commence à comprendre combien ce que j'avais avant était beau. Voilà, la comparaison lui permet de voir cela. Donc, je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas. Dieu est, c'est sa nature, il est par lui-même, sans un autre. Eh bien, nous, toute créature, nous sommes par cet autre, dépendants de Dieu, pour exister et pour agir. Dans l'Évangile, Jésus revendique pour lui-même cette souveraine indépendance. Les Juifs, c'est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 8, les Juifs lui dirent, vous n'avez pas encore 50 ans, mais vous avez vu Abraham. Notre Seigneur dit, Abraham a vu mon jour, il a exulté de joie à voir mon jour. Alors les Juifs lui dirent, vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham. Et Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, donc réponse solennelle, avant qu'Abraham fût, je suis. Et pour les Juifs, c'était clair, ça signifiait la même chose que ce que Dieu avait dit à Moïse. Or les Juifs, aussitôt, prennent les pierres pour le lapider parce qu'il blasphème, lui qui est un homme, se dit Dieu. Pour les Juifs, c'est ça, donc il mérite la mort parce qu'il blasphème. Et dans le texte grec, avant qu'Abraham fût, c'est un verbe qui exprime le temps, l'arrivée à l'existence dans le temps, et le verbe et le je suis, c'est le verbe être qui est utilisé en grec. Donc c'est vraiment l'opposition du temps et puis de l'éternité, de l'existence divine. Alors, application pratique. L'adoration, il faut savoir reconnaître cette plénitude d'être, cet océan infini, et nous, notre rien devant Dieu. Notre rien devant Dieu. Le prophète Isaïe dit ceci, « Toutes les nations sont devant lui, toutes les nations sont devant lui comme inexistantes, et elles valent pour lui le néant et le vide. Elles valent une goutte d'eau et un grain de poussière dans la balance. » Vous voyez, une goutte d'eau, un grain de poussière, elles valent pour lui, par rapport à Dieu, le néant et le vide. Donc, reconnaître notre rien devant Dieu, c'est l'adoration. Reconnaître notre totale dépendance à l'égard de Dieu, ça aussi c'est l'adoration. Et dans la souffrance, c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on a la maladie, la souffrance, là on comprend mieux que nous sommes totalement dépendants de Dieu et nous pouvons mieux adorer. Quand tout va bien, on ne pense à rien et on oublie Dieu. C'est connu. Et cette adoration de l'infini, de l'être divin, cette plénitude d'être, notre rien devant Dieu, notre totale dépendance à l'égard de Dieu, cette adoration, il faut la faire quand on est dans la chapelle devant le Saint-Sacrement, puisque Jésus est Dieu et qu'il est là. Donc tout ce que je viens de dire, il faut le dire de notre Seigneur. Et puis, deuxième chose, nous accepter tel que nous sommes. C'est Dieu qui nous a créés avec nos qualités, nos limites, nos insuffisances. Alors nos qualités, pas d'orgueil, puisque nous avons tout reçu de Dieu. Et puis nos limites, nos insuffisances, ben pas de révolte, tout est fait pour la gloire de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit saint Paul. Donc ne pas se plaindre en disant « il me manque ceci ou cela », ben non, ce serait faire injure au Créateur et à sa sagesse qui m'a fait ainsi avec mes qualités et mes défauts. Il faut se prendre comme nous sommes, c'est Dieu qui nous a fait. Il faut nous accepter tels que nous sommes. Bon, bien sûr, en essayant de devenir meilleur, mais il y a notre nature qui est telle avec ses limites. Et ça, c'est le bon Dieu qui l'a fait. Et puis, dans la souffrance et la vieillesse, quand on perçoit que nous perdons peu à peu toutes nos facultés, comme je vous disais de ce vieux prêtre-là, ben pas de panique, mais en profiter pour admirer, car c'est dans cette privation que nous comprenons mieux les merveilles de notre corps humain, merveilles de ce que le bon Dieu a fait pour nous. Nous avons l'expérience des deux éléments de comparaison. Vous comprenez qu'on perd tout, on a l'expérience qu'on perd tout, mais avant on savait qu'on l'avait. Là on peut comparer les deux. Et la comparaison nous permet de comprendre. Tant qu'il manque un des éléments de la comparaison, on ne comprend pas bien. C'est comme ça. Il faut donc accepter ces souffrances, il faut l'adorer, adorer Dieu qui est le maître et le seul maître, et le faire en union avec le sacrifice de Jésus-Christ qui a offert lui ses souffrances et sa mort pour adorer Dieu et pour notre rachat. Il faut savoir s'unir au sacrifice de Jésus-Christ à travers cela. Voilà, donc je suis celui qui suis. Ensuite, Dieu est simple. En Dieu, il n'y a pas de composition de parties. Il n'y a pas de partie, il n'y a pas de division. Dans le corps, ben, on distingue des parties. La tête, les bras, les mains, les jambes, les pieds, etc. Dans un morceau de pain, on peut faire des divisions. On peut couper en morceaux. Ben, en Dieu, ce n'est pas possible. Tout l'univers matériel est composé de parties qui sont divisibles. Toutes les choses matérielles, vous pouvez les couper en morceaux. C'est divisible autant que vous voulez ou presque. Dans l'homme, il y a aussi deux parties, le corps et l'âme. Et que notre unité est difficile à faire. Dans la vie sociale, dans l'Église, il y a des parties, et faire l'unité entre toutes ces parties qui sont très nombreuses, est fort difficile, et que de divisions tragiques. Dans l'âme elle-même, dans notre âme, il y a des parties, l'âme et ses deux facultés, l'intelligence et la volonté. Dans l'ange, un ange est beaucoup plus un qu'un être humain, puisque l'ange est esprit seulement, donc il est beaucoup plus simple. Mais dans l'ange aussi, il y a distinction de parties où il existe, mais il pourrait ne pas exister, et puis il est un ange, mais il n'est pas autre chose. Donc il est un ange, et puis son existence, il n'est pas son existence comme Dieu. L'ange ne peut pas dire « je suis ». Il dit « je suis un ange », c'est tout. Donc il y a bien une différence là aussi. L'ange est un esprit, et il reçoit son existence. Donc, les créatures sont multiples et elles sont divisées, elles sont des reflets multiples des perfections divines. Ben Dieu, lui, est souverainement simple. Il n'y a pas de composition de parties, il n'y a pas de division. Tout est un. Alors, on a du mal à comprendre cela, puisque nous, on vit dans le multiple, dans ces choses divisées. Donc c'est la simplicité de toutes les perfections qui sont portées à leur plus haut degré. Donc toutes les perfections qu'on peut dire de Dieu sont portées à leur degré infini, par la justice, la bonté, la miséricorde, la providence, toutes les autres, l'éternité, toutes les autres perfections. Toutes ces perfections sont une en Dieu. Une seule chose. Il n'y a pas de division en Dieu. C'est notre esprit à nous qui divise, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Pour connaître les choses, nous sommes obligés de les connaître morceau par morceau. On n'arrive pas à faire autrement. Notre esprit est comme ça, mais les choses sont une. Et en Dieu, tout est un. Alors c'est ce que l'on veut dire quand on parle dans les catéchismes, qu'on dit que Dieu est pur esprit, ça veut dire qu'il est un esprit sans composition de parties. Quand on dit que Dieu est pur esprit dans les catéchismes, on dit, ça veut dire qu'il est simple, il n'y a pas de composition de parties. Et notre Seigneur s'applique cela à lui-même. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Parfaitement un, une seule chose. Donc l'unité, la simplicité en Dieu. Alors cette unité et simplicité, ben, il faut que nous essayions de la retrouver. C'est le péché, bien sûr, qui l'a détruit pour nous. Retrouver cette unité, cette simplicité qui procure la paix intérieure. Ben, comment? Il faut se rapprocher de celui qui est un, qui est simple. Donc il faut se rapprocher de Dieu, s'unir à Dieu. Saint Paul dit, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, si nous nous unissons au Seigneur, nous serons un seul esprit avec lui. Donc, nous aurons un petit quelque chose de cette unité et simplicité. Et Jésus lui-même nous appelle à cette unité. C'est dans la prière sacerdotale, donc dans le discours après la scène, le soir du Jeudi Saint. Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Qu'il soit un, donc retrouver cette unité, cette simplicité entre tous, à l'image de l'unité divine. Alors comment retrouver cette unité et cette simplicité? Bien, faut soumettre notre âme à Dieu, et il faut soumettre notre corps à l'âme. Alors toutes les choses rentrent dans l'ordre. L'âme soumise à Dieu, donc notre esprit est uni à Dieu, donc il participe de la simplicité et de l'unité de Dieu. Seulement, il faut qu'en dessous, ça se soumette aussi, parce que sinon, il y a la division. Donc, il faut que le corps et toutes les passions soient soumises à l'âme. C'est tout remettre dans l'ordre. Et quand tout est remis dans l'ordre, alors nous retrouvons cette unité, cette simplicité qui procure la paix. Parce que la paix, tout est en ordre. Alors, qui fait notre soumission à la volonté de Dieu, c'est par la charité et l'obéissance. Donc tout faire pour Dieu, pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et c'est cette paix que nous promet Jésus-Christ. Hein. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est aussi cette paix que nous demandons avant la communion. Donc cette unité de volonté avec Dieu, pour que notre âme soit soumise à Dieu. Et en dessous, eh bien, il faut que le corps, donc la chair et tous ces mouvements déréglés qui sont source de division, ben il faut faire mourir ces désordres. Il faut soumettre le corps et les passions à la volonté, et c'est la mortification. La mortification chrétienne est nécessaire pour faire disparaître les mouvements désordonnés qui sont en nous. On a tous des choses un peu désordonnées en nous qui vont à droite et à gauche. Il faut essayer de mettre l'ordre. Et pourquoi la mortification? Alors on a un peu de mal à comprendre. Mais c'est pourtant la réalité. Alors c'est là où on comprend l'adoration de Dieu, parce qu'on est complètement dépassé par Dieu. Et là, on doit adorer Dieu. Ensuite, Dieu est infini en sagesse. La sagesse est la connaissance de Dieu qui conduit chaque chose vers sa fin, vers son but ultime. Je crois que le père Calmel a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Si ton œil est simple ». Peut-être certaines d'entre vous le connaissent. Et comme sur Dieu, bon, je pense au livre, pour connaître Dieu, vous avez Don de Latte a écrit un certain nombre d'ouvrages. Il y en a un qui s'appelle « Contempler l'invisible ». Et il y en a un autre, c'est voir Dieu. Donc ces ouvrages peuvent aider, ainsi que ceux de Don Marmion, si, quand il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, Dieu est partout présent. Ce n'est pas compliqué à comprendre, puisque c'est Dieu qui fait tout exister, et qui fait exister tout à chaque instant. Ben, par son action toute puissante, il est présent là où il fait exister quelque chose. Donc il est partout. Partout où il y a un être créé, ben Dieu est présent pour le faire exister. Alors c'est ce que dit Dieu dans le prophète Jérémie. « Est-ce que je ne remplis pas, moi, le ciel et la terre, dit le Seigneur ?» Et dans le livre de la sagesse, « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et lui qui contient tout, entend tout ce qui se dit. » Et encore le psaume 138, « Où irai-je pour me dérober à votre esprit? Et où m'enfuirai-je de devant votre face? Si je monte au ciel, vous y êtes. Si je descends en enfer, ben vous êtes présent encore par là. » Dieu est partout. Donc ça, c'est la présence du Créateur. Pour nous, qui vivons en état de grâce, il y a la présence spéciale de la Sainte Trinité dans notre âme. Mais là, c'est le surnaturel. Parce qu'il faut, si nous pouvons arriver à vivre en présence de Dieu, ça peut être une grande source de perfection. Donc si nous avons ce sentiment de la présence de Dieu en toute chose, ben, nous pourrons plus facilement agir pour l'amour du bon Dieu et puis aussi nous surveiller. Parce que si nous avons le sentiment permanent de la présence de Dieu, nous dirons, ben, attention, le bon Dieu voit tout ce que je fais alors, et tout ce que je pense, donc attention. C'est pour ça que ça peut être une grande source de perfection. Ensuite, Dieu est immuable, il ne change pas. Si Dieu pouvait changer, il serait imparfait. Alors, essayons d'expliquer ça. Changer, c'est bien, c'est soit se mouvoir, donc bouger d'un lieu à l'autre, comme nous le faisons lorsque nous marchons. Mais ça, ce n'est pas possible pour Dieu. Dieu est un esprit, il n'est pas un corps. Donc, il n'est pas dans un lieu comme un corps et dans un lieu comme... Dieu n'est pas présent ici comme nous y sommes présents par le fait que nous avons un corps localisé dans l'espace. Donc, Dieu n'est pas présent de cette manière-là, bien sûr, parce qu'il est esprit. Donc, changer, ça ne peut pas être au sens de se mouvoir d'un lieu à l'autre. Changer, ça peut être acquérir des biens ou les perdre. J'acquiers une qualité, mais au contraire, je perds quelque chose. Mais Dieu ne peut pas acquérir ni perdre, puisqu'il est infiniment parfait. S'il commence à acquérir, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, donc il est imparfait. Puis s'il perd quelque chose, il va devenir imparfait. Mais ce n'est pas possible pour Dieu. Il est infiniment parfait. Donc il ne peut rien perdre et rien acquérir. Et c'est ce que dit l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, dans le prophète Malachie. « Je suis Dieu et je ne change pas. » Et Saint Jacques, en Dieu, il n'y a aucune vicissitude ni ombre de changement. Alors, ça doit engendrer pour nous la paix et la confiance. Dieu nous aime, il veut nous sauver par Jésus-Christ, et bien cette volonté de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, donc cette volonté de Dieu de nous sauver, de nous conduire au ciel, ne change pas. Donc, je peux toujours compter sur le secours de Dieu. Peut-être certains vont me dire, oui, alors si Dieu ne change pas, rien ne se passe au ciel. Alors ça ne va pas être très agréable. Alors. Oui, mais attention, cette immutabilité, donc le fait de ne pas changer, ce n'est pas celle de l'inertie ou de la mort, où effectivement il ne se passe rien. Mais cette immutabilité, c'est celle d'une activité et d'une vie portée à leur suprême degré. Donc c'est... Si vous voulez, l'immutabilité, le fait de ne pas changer, Mais cette immutabilité, c'est celle de l'activité et d'une vie portée à l'infinie perfection. Et c'est cette vie et cette activité qui rend Dieu heureux. Alors ça, bien sûr, nous avons un peu de mal à comprendre, parce que infini en perfection, et ces perfections, ce n'est pas quelque chose qui est sans vie, au contraire, c'est une vie parfaite, extraordinaire, une vie spirituelle portée au degré le plus grand possible. Et c'est ce que dit Jésus-Christ dans le prologue de Saint Jean que nous lisons à la fin de chaque messe. Le Verbe était Dieu, en lui était la vie. Donc le Verbe, seconde personne de la Sainte Trinité, et Dieu, en lui était la vie. Et ensuite, le Verbe s'est fait chair. Donc Jésus-Christ a cette vie divine dans sa plénitude, puisqu'il est Dieu. Notre Seigneur dit encore, je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Donc, les sacrements nous communiquent cette vie ou communiquent quelque chose de cette vie ou de cette activité divine. La grâce sanctifiante est une participation à la vie divine. Donc Dieu nous communique cette vie. Et donc aussi cette stabilité. La grâce sanctifiante, participation à la vie de Dieu, participe aussi à cette immutabilité, à cette stabilité. Donc nous qui sommes si changeants, si instables, qui avons du mal à nous fixer sur les choses, eh bien par la grâce de Dieu, qui est participation à la vie divine, nous avons la source de notre stabilité. Alors la nature de cette vie, ça c'est le mystère divin, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Alors la conséquence que Dieu soit immuable, c'est son éternité. Dieu ne changeant pas, ben il est, il existe pour toujours. Dieu, l'éternité, c'est ce qui a ni commencement ni fin. Alors souvent les catéchismes disent Dieu a toujours existé, il existera toujours. Ce n'est pas très exact ni très précis. Pourquoi ? Ben parce que Dieu est hors du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est le créateur de toutes choses. Donc Dieu est le créateur du temps. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Nous, notre vie s'écoule dans une succession d'instants, de minutes, d'heures, de jours, d'années. On mesure le temps par le changement. S'il n'y avait pas de changement, il n'y aurait pas de temps. Donc là où il n'y a pas de changement, comme en Dieu, mais intensité d'activité et de vie, il n'y a pas de temps. Comme nous, nous le connaissons. Alors nous pouvons avoir une petite perception de cela, c'est lorsque nous avons une très grande joie intense, ou au contraire une peur très intense. Et on a l'impression que ça dure. Et on dit, j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Bien, c'est bien le langage que nous utilisons, parce que ça a été très intense, et cette intensité nous a fait perdre la notion du temps. Donc Dieu est hors du temps, cette éternité de Dieu, c'est la vie immuable, sans commencement ni fin, qui se possède elle-même tout à la fois. Bon, c'est une vie, c'est l'éternité, donc c'est la vie immuable, la vie qui ne change pas, sans commencement ni fin. Alors, petite précision de vocabulaire, je pense que ce n'est pas inutile. Le corps humain a un commencement et une fin, il est mortel. Donc le corps humain a un commencement et une fin, il est mortel. Notre âme a un commencement, elle a été créée par Dieu au moment de notre conception. Elle a un commencement, mais elle n'a pas de fin. Elle est immortelle. Et Dieu n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Donc mortel, immortel, éternel. Précision de terme. Donc éternel, ni commencement ni fin, immortel, un commencement mais pas de fin, et mortel, commencement et fin. Donc il y a un psaume qui dit « Seigneur, vous êtes toujours le même et vos années n'ont pas de fin. » Et Jésus-Christ, c'est Saint Jean parlant de Jésus-Christ dans la première épître de Saint Jean. Saint Jean parle de Jésus-Christ et il dit « Nous vous annonçons la vie éternelle qui était dans le sein du Père et qui nous a été manifestée. » Donc Jésus-Christ est cette vie éternelle. Donc Jésus-Christ a cette éternité, il est éternel. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était dans le sein du Père et qui nous a été manifestée. Manifestée, c'est Jésus-Christ qui nous fait connaître. Alors l'application pratique, c'est qu'il faut faire la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous sommes créés et sauvés pour entrer dans cette éternité divine. Nous sommes bien faits pour ça. Saint Augustin, dans un commentaire de psaume, dit « Unis ton cœur à l'éternité de Dieu et tu seras éternel. Unis-toi à l'éternité de Dieu, attends avec lui les événements qui se passent au-dessous de toi. » Oui, on s'unit à l'éternité de Dieu, on s'unit à la volonté de Dieu, et en dessous il peut se passer ce qu'il veut, les pires événements. De toute façon, on est uni à Dieu et on est dans l'éternité. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je concède. Mais, c'est quand même cela qu'il faut chercher. Donc, n'ayons pas de crainte, quels que soient les événements, restons en paix, n'oublions pas cette parole, « Je vous ai aimé d'un amour éternel. » Le prophète Jérémie. Et puis c'est la communion aussi. « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Donc cette vie éternelle nous est communiquée. Alors, vous voyez un peu ce qu'il y a d'extraordinaire en cela. Ensuite, Dieu est infini en perfection. Alors je prends quelques perfections de Dieu, sa sagesse, sa bonté, sa miséricorde, sa justice, sa sainteté, sa providence. J'ai pas le temps, déjà l'heure a passé. Donc la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, premièrement, Dieu connaît toutes choses, les plus petites comme les plus grandes. Tout est à nu devant lui. Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Oui, c'est tout est connu de Dieu, même les moindres petites pensées. Alors, Seigneur, ayez pitié de nous. Le Seigneur sonde les cœurs des hommes, il connaît leurs desseins les plus subtils, car il possède toute science, il annonce le passé et l'avenir. Aucune pensée ne lui échappe, aucune parole n'est cachée pour lui. C'est dans le livre de l'Ecclésiastique. Alors cela est vrai de Jésus-Christ, puisqu'il connaît les pensées des Juifs. Quand les Juifs viennent le tenter, il déjoue leur piège, parce qu'il lit dans leur cœur. Jésus-Christ connaît le futur, il prédit sa passion, il prédit la destruction de Jérusalem. Je suis la vérité. Et nous disons au moment de Noël, là, dans les grandes antiennes, ce qu'on appelle les antiennes hauts, dans le missel, vous trouvez cela, les antiennes de vêpres, dans les 8 jours qui précèdent Noël, l'une d'elles dit ceci, « Ô sagesse qui est sortie de la bouche du Très-Haut, venez nous délivrer. » Donc, Dieu connaît toutes choses, donc c'est la vérité. Il faut aimer cette vérité. Et aimer Jésus-Christ, c'est aimer la vérité. Et par le fait même, détester l'erreur. Jésus-Christ est la vérité, donc aimer Jésus-Christ, c'est aimer la vérité. Et détester l'erreur, le mensonge. Puis aussi, modestie dans nos paroles, vigilance sur nos pensées, bien sûr, puisque nous en serons jugés pour tout. Et puis Dieu, et donc Jésus-Christ, connaît le passé, le présent et l'avenir. Le passé, le présent et l'avenir, et il connaît tout cela en un seul acte de pensée. Dieu a une seule pensée, et dans cette seule pensée, il connaît tout le passé, tout le présent et tout l'avenir, avec tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien nous sommes dépassés. Dieu est élevé au-dessus de notre pauvre monde. Il le domine. Une seule pensée, il connaît tout. Qu'est-ce que nous sommes devant ? petite image, si vous voulez, vous mettez au sommet d'une montagne et vous regardez ce qui se passe en bas. Vous voyez les hommes comme des petites fourmis, des tas de choses qui se passent. Puis vous êtes là, immobile, là-haut, et vous voyez tout ce qui se passe. Ben, Dieu est de son éternité, voit les hommes sur terre, dans le passé, présent, avenir, voit tout ce qui se passe, connaît tout, dans tous les détails, et il domine tout ça. Et rien du tout. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Dieu nous aime et qu'il s'est fait homme pour nous sauver. C'est un peu, si vous voulez, l'histoire du monde est un peu comme un film qui se déroule devant Dieu. Mais Dieu voit ce film en une seule pensée. Alors on a un peu de mal à comprendre. Mais c'est pourtant la réalité. Alors c'est là où on comprend l'adoration de Dieu, parce qu'on est complètement dépassé par Dieu. Et là, on doit adorer Dieu. Ensuite, Dieu est infini en sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu qui conduit chaque chose vers sa fin, vers son but ultime. Donc la sagesse, c'est la connaissance de Dieu qui conduit chaque chose vers sa fin, vers son but ultime, comme un bon père de famille qui considère toute chose de sorte que chacun dans la famille ait ce qu'il faut pour son... Alors, l'application, c'est à la volonté de Dieu, puisque cette volonté du bon Dieu est souvent... Nous avons souvent du mal à la comprendre et à l'accepter. Il faut donc dire que cette volonté de Dieu est d'une infinie sagesse. D'une infinie sagesse, même quand elle nous déconcerte, surtout dans les épreuves qu'elle nous envoie. Donc, il faut faire un acte de foi en cette sagesse de la volonté de Dieu. Je ne comprends pas cette volonté de Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je crois que c'est infiniment sage et bon pour moi. Parce que la volonté de Dieu est d'une infinie. Et c'est normal que je ne comprenne pas cette volonté de Dieu, puisque la volonté du Dieu, si elle est d'une infinie sagesse, infini en perfection, ben je ne peux pas comprendre, bien sûr, ça me dépasse. Comme dit saint Paul, ô profondeur insondable de la sagesse et de la science de Dieu. Alors je dois croire, adorer, aimer cette volonté infiniment sage de Dieu et l'accomplir. Et c'est en accomplissant cette volonté de Dieu que nous nous unissons à Dieu, que nous sommes un seul esprit avec Dieu et que nous entrons dans l'éternité de Dieu. Alors c'est sûr, c'est toute la perfection chrétienne est là, toute la sainteté. Ensuite, la bonté de Dieu. Alors, Dieu est bon en lui-même et Dieu est notre bienfaiteur. Il faut distinguer un petit peu ces deux choses-là. Dieu est bon en lui-même. Alors, quand vous dites à un enfant, la confiture, c'est bon, oh oui, en général, il aime ça. Maman est bonne, ah ben oui, meilleure qu'à confiture, ah ben oui, quand même. Et Dieu. Meilleur qu'à confiture, meilleur qu'à maman, ah ben oui. Il a un instant de réflexion, en général. Parce qu'il ne pense pas à faire cette comparaison. Il a un instant de réflexion. Et après, il dit oui. Bien sûr, et Dieu est infiniment meilleur que la confiture et que maman. Tous les biens qu'on peut imaginer sont en Dieu. Toutes les perfections sont en Dieu. Or, autre exemple. La fiancée trouve son fiancé, ou inversement, sans défaut et rempli de toutes les qualités. Dieu aussi est sans défaut et rempli de toutes les qualités. Seulement, pour Dieu, c'est absolument sans défaut et de façon certaine. Le fiancé a beaucoup de qualités, mais il ne les a pas toutes. Et puis on peut se tromper dans le jugement. Dieu est infini, en perfection. Et c'est pourquoi on doit aimer Dieu plus que le fiancé ou que la fiancée. Dieu est plus aimable que le fiancé ou que la fiancée. Parce qu'il y a plus de bien en Dieu. Donc on doit préférer Dieu au fiancé. Et si le fiancé ou la fiancée nous détournait de Dieu, eh bien, il faudrait choisir Dieu plutôt que l'être humain. Donc tous les biens qu'on peut imaginer sont en Dieu, toutes les perfections. Et c'est pourquoi nous disons, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, par-dessus toutes choses. Et donc je suis prêt à tout sacrifier pour vous, car en perdant tout sur cette terre, je trouve tout en vous, parce que tous les biens sont en vous. Je vous aime par-dessus tout. Et c'est pourquoi Dieu s'aime lui-même plus que tout le reste. Nous, si nous disions « je m'aime moi-même plus que tout le reste », ça serait d'égoïsme. Mais pour Dieu, ce n'est pas de l'égoïsme, parce que Dieu est infini en bonté, en perfection. Donc, il est normal qu'il s'aime lui-même plus que tout le reste. C'est dans l'ordre. Or, Dieu nous aime, il est notre bienfaiteur. Et cet amour n'est pas passif, inerte, mais il est généreux, actif, créateur. Donc, le bon Dieu est notre bienfaiteur parce qu'il est créateur de la bonté des choses. Toutes les choses bonnes qu'il y a dans la création, ben Dieu y a pensé pour nous, puisque toute la création est faite pour nous. Donc, toutes les choses bonnes, et nous en utilisons tous les jours sans y penser. L'eau, la nourriture, le soleil, la pluie, enfin, toutes les choses que nous faisons tous les jours, qui sont pour notre bien, viennent de la profusion de Dieu, de sa création, il l'a fait pour nous. Donc cette bonté, même dans l'ordre naturel, se manifeste à nous. Mais bien sûr, cette bonté de Dieu se manifeste surtout dans l'ordre surnaturel, en faisant de nous ses enfants. Saint Jean, dans sa première épître, vous voyez, j'y reviens assez souvent parce que il y a des très beaux passages. « Voyez quel amour le Père Céleste nous a témoigné de vouloir que nous soyons appelés enfants de Dieu et que nous le soyons en effet. Et nous le sommes parce que le baptême nous donne la grâce sanctifiante qui est quelque chose de la vie de Dieu. Donc nous avons la même vie que Dieu. Et amour plein de tendresse, on trouve ça dans l'Ancien Testament, dans le prophète Isaïe. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, dit le Seigneur. Je vous porterai sur mon sein et je vous bercerai sur mes genoux. Et on dit après que l'Ancien Testament, c'est Dieu qui punit, qui est dur, etc. Mais il y a l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a des paroles extraordinaires. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous bercerai sur mes genoux. On ne peut pas exprimer plus de tendresse à travers ces paroles. Dieu nous fait cette bonté de nous communiquer sa vie pour que nous soyons ses enfants et que nous puissions l'appeler Père. Père au sens profond, hein, vrai. Alors c'est toute Sainte Thérèse dans l'enfant Jésus. Il voit de la petite enfance, être vraiment enfant et avoir une relation d'enfant avec Dieu notre Père. Amour miséricordieux, c'est encore Saint Jean dans sa première épître. En cela est la charité, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Et il a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Nous étions pécheurs, il nous aimait le premier, et il a envoyé son Fils pour que nous cessions d'être pécheurs afin de devenir justes. C'est encore, et alors là, c'est Saint Paul qui dit, Dieu nous a montré son amour en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Bien sûr, c'est tout l'amour du bon Dieu pour nous. Et saint Paul s'écrit encore, c'est dans l'Épître aux Romains, là, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Épître aux Romains, chapitre 8. Alors toutes ces choses, c'est l'Église, c'est les sacrements, c'est la messe, c'est l'Eucharistie, c'est son assistance continuelle. Ce que nous allons voir un petit peu dans la retraite. Et Jésus nous dit, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Donc l'amour de Jésus pour nous, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et saint Bernard dit, votre amour au Jésus n'a pas su avoir de mesure et votre charité n'a pas su tenir de limite. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Voilà le... Nous avons de quoi méditer, on pourra passer une retraite entière sur les perfections de Dieu, bien sûr, mais il faut méditer cela. Alors c'est pour ça que je me suis permis de vous donner une feuille là, que le séminariste a bien voulu taper ce matin, qui peut vous aider à revenir un petit peu sur ces perfections divines. Donc, si vous voulez, nous allons dans la chapelle. 5 minutes et quelques minutes pour... méditez un petit peu cela, puis méditez le bien pendant la journée, priez dans la chapelle et restez bien en silence, le silence intérieur, pour que l'Esprit Saint puisse vous parler.